Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Sans plus tarder, voici le principaux titres qui font l'actualité. À Luanda, le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique trace les contours d'un partenariat économique renouvelé, placé sous le thème « Les voies de la prospérité », une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Cette édition 2025 ambitionne de renforcer les liens économiques, commerciaux et stratégiques entre les deux continents dans un contexte mondial en pleine mutation. Kouilou, les enseignants d'Idiofa brandissent la menace d'une grève face au non-paiement de leur salaire, privé de leur rémunération du mois de mai par Afriland First Bank. Les enseignants expriment leur colère et dénoncent les silences persistants de l'établissement bancaire. Les syndicats restés sans réponse malgré les multiples démarches envisagent un mouvement de grève si la situation n'évolue pas rapidement. Nord et Sud Kivu, le CICR tire la sonnette d'alarme sur l'effondrement du système de santé face à l'insécurité persistante et aux conflits armés. Des milliers de personnes sont privées d'accès aux soins. Une étude récente du Comité international de la Croix-Rouge révèle une situation critique suscitant une vive inquiétude. Jean-Nicolas Paquet-Rouleau, chef adjoint de la délégation du CICR, revient sur ses constats dans un entretien exclusif à suivre dans ce journal. Nous débutons ce journal par l'actualité en provenance de Luanda en Angola, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi matin. Il participe au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 qui se tient dans la capitale angolaise, organisé par le Corporate Council on Africa, CCA. Cet événement rassemble plus de 1500 participants, parmi les des chefs d'État et de gouvernement, des ministres africains, de hauts responsables américains, ainsi que des dirigeants d'entreprises venus de deux continents. Le sommet placé sous le thème « Le voie de la prospérité », une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique vise à renforcer les liens économiques et stratégiques entre les deux régions. Un reportage signé Grâce Hamzati.
D'après la présidence congolaise, le projet du corridor de Lobito sera au cœur des échanges entre dirigeants africains et américains. C'est ainsi que le président Félix Tshisekedi fera un exposé dans un panel spécifique sur ces projets soutenus par le gouvernement américain, précise la source. Bien plus qu'un simple projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente les fondements d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs, comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Rappelons qu'un mini-sommet centré sur le projet du corridor de Lobito avait eu lieu en décembre 2024 dans la province angolaise de Benguela, réunissant le président congolais avec ses homologues João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, Joe Biden des États-Unis, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. La paix et la sécurité avaient été évoquées par le président Félix Tshisekedi comme condition primordiale pour garantir le succès de ces projets. Signalons que ce sommet USA-Afrique se tient au moment où les gouvernements congolais et rwandais s'apprêtent à signer sous la médiation de l'administration Trump un accord de paix devant mettre définitivement fin à la guerre dans l'est de la RDC.
En Ituri, un dialogue de paix a été lancé ce lundi à Aru, une localité située à plus de 300 kilomètres au nord de Bunia. Cette initiative réunit des groupes armés, de chefs coutumiers et de leaders communautaires dans le but de restaurer la paix dans cette province de l'est de la RDC. Cette initiative réunit les groupes armés actifs dans la région ainsi que de chefs coutumiers et de leaders communautaires dans le but de mettre fin aux violences qui secouent cette partie de l'est du pays. Organisée par les autorités provinciale avec le soutien de la MONUSCO, ces assises visent à obtenir une cessation immédiate des hostilités et à restaurer l'autorité de l'État. L'objectif final, permettre le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine. Sur place à Aourou, notre envoyé spécial Martial Kizabiamungu suit pour vous le déroulement de ces pourparlers.
Ils sont une centaine. Les participants à ce dialogue de paix venus de tous les 5 territoires de l'Ituri, des représentants des groupes armés CODECO, Autodéfense, FRPI, FPIC, Chiniatuna et MAPI, mais aussi les chefs coutumiers des associations féminines, des jeunes et même des députés nationaux et provinciaux. Pendant 5 jours, ils vont échanger sur le retour de la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Les participants vont également évaluer les avancées et défis des résolutions des précédents dialogue de paix tenu du 26 mai au 3 juin 2023. Selon les organisateurs, cette démarche vise à inciter les groupes armés à déposer les armes afin de permettre le retour des personnes déplacées dans leur village. Le commandant de la 32e région militaire a rappelé aux jeunes qui ont pris les armes contre la République de saisir la main tendue du chef de l'État pour l'instauration d'une paix durable dans cette province longtemps meurtrie par les violences armées. La MONUSCO a réaffirmé son engagement à soutenir ce processus de paix en vue de garantir la sécurité des populations dans leurs entités. Depuis Arou, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Quittons Arou pour le territoire de Beni, au Nord Kivu. Retour progressif des agriculteurs vers leurs champs est observé depuis plusieurs semaines le long du tronçon Eringeti-Luna-Ndalia. Ce regain d'activité agricole est favorisé par une accalmie relative dans la région, mais surtout par le lancement de travaux de réhabilitation de cette route restée impraticable pendant plus de 4 ans en raison de l'insécurité liée aux exactions de rebelles ADF et des groupes armés locaux. Les autorités locales saluent le renforcement des effectifs des forces conjointes FARDC-UPDF déployées dans la zone pour assurer la sécurité des civils et consolider les avancées sur le terrain. Marc Marofimbo nous en dit plus depuis Beni.
Vidées de leurs habitants depuis plus de 4 ans, les zones agricoles situées entre Eringeti dans la province du Nord Kivu et Luna jusqu'à Ndalia dans la partie sud du territoire de Rumu en Ituri voisin sont de nouveau fréquentées. Les agriculteurs en provenance d'Oicha, Kokola, Maimoya, Eringeti, Luna et même de Komanda y affluent désormais chaque jour pour des activités champêtres. Ici, des éléments des forces conjointes FARDC-UPDF ont été déployés pour traquer les rebelles des ADF, ce qui a permis aux populations de retourner dans leurs champs et la reprise des activités socio-économiques. Kambale Mutokambale, notable d'Endalia, explique.
Les gens commencent à regagner leurs champs. Nous sommes en train de féliciter le commandant de l'unité de forces armées déployée dans cette zone pour l'ordre qu'il a mis en place. Il est là pour protéger les civils, ce qui a motivé les agriculteurs de regagner leurs activités champêtres. On n'entend plus les histoires des rumeurs et les bruits de désinformation et mensonges. Ça n'existe plus.
Signalons que le génie militaire des deux armées ougandaises et congolaises poursuit la réhabilitation de cette tronçon routier qui permet aux véhicules d'évacuer les produits champêtres vers les centres de consommation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la situation sécuritaire se détériore dans plusieurs localités de la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. Ce week-end, de violents affrontements ont opposé le rebelle du AFC M23 à des groupes armés locaux. À Nyanzale, au moins 2 civils ont perdu la vie et 2 autres ont été blessés lors des combats survenus samedi et dimanche. Ces violences ont provoqué un nouvel afflux des déplacés vers Bambo, localité située à quelques kilomètres à l'est, où les conditions de vie sont extrêmement précaires. Élise Kavira nous livre les détails.
Ce lundi, nos sources dans le Bouito parlent d'une situation très volatile dans l'agglomération de Nyanzale, à cheval entre les groupements Mutanda et Kihondo. Les affrontements qui ont opposé samedi et dimanche soir les rebelles M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC dans la zone a mis les habitants en panique. 2 personnes, une femme et un homme, ont été tuées et 2 autres, dont un enfant, blessé dans le village Kihondo. Ce village est vidé à près de 50% de ses habitants qui se concentrent au centre de Nyanzale. Selon ses sources, jusqu'à ce lundi matin, des tirs se faisaient entendre autour de la même entité. C'est depuis plus d'un mois que des affrontements opposent presque chaque jour les rebelles M23 aux combattants Wazalendo dans au moins 4 groupements des Bouito. Ce sont notamment Bambo, Tongo, Bukombo, Kihondo et Mutanda. Conséquence, certaines agglomérations comme Bambo accueillent déjà des milliers de familles de déplacés qui vivent dans une situation humanitaire difficile. Ces populations qui n'accèdent pas à leurs champs à la suite des affrontements récurrents ne bénéficient pas non plus jusqu'à présent d'une quelconque aide, déplorent les notables locaux.
Avant de refermer cette page consacrée au Nord Kivu, signalons que 5 jours après le drame survenu sur le site minier des Bibatama dans la zone 3 du territoire de Masisi, plusieurs corps restent encore ensevelis sous les décombres. Cette zone exploitée de manière artisanale avait été frappée par un glissement de terrain meurtrier provoquant un lourd bilan humain. Les bilans provisoires fournis par diverses sources locales fait état d'au moins 20 morts et d'une dizaine de blessés. Le nombre exact de personnes toujours coincées sous terre reste inconnu, les victimes étant issues des différentes régions. Le drame s'est produit le jeudi le 19 juin lorsqu'un éboulement a surpris plusieurs dizaines de creuseurs artisanaux dans une mine de coltan et des cassitérites située à Rubaya Bibatama, une zone actuellement sous contrôle des rebelles du M23. Parmi les victimes figureraient également des femmes et des enfants, selon plusieurs témoignages recueillis sur place. L'incertitude autour du bilan s'explique par l'absence de registre officiel des travailleurs présents sur le site au moment de l'éboulement. Kwilu, les enseignants du territoire d'Idiofa, dans la province éducationnelle Kwilu 3, menacent d'entrer en grève dès ce lundi si le salaire ne sont pas versés, en cause le non-paiement du salaire du mois de mai par Afriland First Bank, chargé de leur rémunération. Selon les responsables syndicaux locaux, la banque n'a fourni aucune explication à ces jours malgré les multiples démarches entreprises. Joint par Radio Capi, Gilbert Mpom, membre de l'intersyndicale des Kwilu 3, dénonce le traitement réservé aux enseignants qu'il qualifie d'injuste et méprisant. On l'écoute dans cet extrait proposé par Plotin Yambinga.
Les anciens d'Idiofa n'ont jamais touché le mois de mai. Il y a un mécontentement général qui fait ça que les nids, les anciens seront dans la rue pour marcher, réclamer les 2 mois, le mois de mai et le mois de juin. Parce qu'à ce moment précis où nous nous retrouvons déjà la veille du 23 juin, le gouvernement a déjà disponibilisé les fonds pour payer le mois de juin. Si bien que les anciens d'Idiofa trouvent inopportun de devoir toucher seulement le mois de mai pendant qu'ils attendent le mois de juin. C'est-à-dire hier, contre toute attente, pendant que la banque Afriland, qui n'a jamais programmé la paie ici au mois de juin, et plutôt le samedi, hier ils ont programmé la paie pour les administratifs de bureau gestionnaire. Et c'est une vaste aventure seulement après avoir suivi les communiqués du syndicat, donnant ce préalable-là, les invitant à payer les 2 mois plutôt qu'un seul mois. Donc ils ont improvisé hier une paie là, aventurière, pour aligner seulement les agents des bureaux de la province éducationnelle, CECOP, inspection ainsi que la division provinciale.
Les tentatives de Radio Capi pour obtenir la version du responsable de l'agence Afriland à Idiofa sont restées vaines. Kinshasa, l'heure est au bilan ce lundi à l'hôpital général de référence de Kintambo après un violent incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu a ravagé presque entièrement le pavillon 3 de l'établissement, causant d'importants dégâts matériels, mais sans faire des victimes, selon des sources médicales sur place. Seules 2 salles ont échappé aux flammes. Les pavillons abritaient notamment des salles de réunion, des bureaux, des médecins et d'infirmiers ainsi que des chambres d'hospitalisation. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. En attendant, l'accès aux pavillons sinistrés reste interdit. Malgré cet incident, les autres services de l'hôpital ont repris leurs activités normales ce lundi. Au Congo central, le gouverneur de province appelle les éléments de différentes unités de la police nationale à redoubler d'efforts, la vigilance et l'assiduité dans l'exécution de leurs missions régaliennes. Cet appel, le gouverneur de province a fait ce lundi à Matadi lors de la cérémonie de prise de commandement et de remise de l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yawe Soumanda. Dont son adresse Grasson Kianda Bilolo a affirmé que jusqu'à présent l'insécurité sous toutes ses formes continue à prendre les dessus sur les services de sécurité provinciaux. Le point avec Nana Plus Riche Mambo.
Le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yawe Soumanda, nouveau commissaire provincial de la police du Congo central, a reçu l'étendard de la nation de main du gouverneur de province. Ceci en guise de son investiture dans la province du Congo central après avoir été nommé par l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2025 portant mise en place au sein de la police nationale congolaise. Dans son adresse aux éléments de la troupe, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, dit avoir constaté avec regret un relâchement dans les chefs des policiers de sa province, en dépit de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles par le gouvernement tant provincial que national. Ce relâchement s'est traduit, selon lui, par une grave résurgence de l'insécurité et du banditisme urbain, nuit et jour, dans les différents coins du Congo central. Les chefs de l'exécutif provincial qui appellent les policiers à redoubler d'efforts et surtout à être à l'écoute des instructions de leur nouveau chef, conclut son allocution en mettant en garde une fois de plus tout élément de la police qui s'associe aux inciviques pour terroriser la population. Ce genre de policier sera jugé et jeté en prison avant d'être chassé de la province du Congo central, a conclu Grace Nkwanga Bilolo. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
À Kinshasa, dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, le Centre de criminologie et de pathologie sociale de l'Université de Kinshasa a organisé ce week-end une conférence débat autour du thème « Les nouvelles institutions judiciaires, économiques et financières en RDC, quelles potentialités ?» En marge de cette rencontre, Maître Carlos Nguapichi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et chercheur en criminologie économique, a livré une analyse critique du projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier. Ce texte actuellement en examen à l'Assemblée nationale est porté par le gouvernement congolais. Selon Maître Nguapichi, ce projet de loi relève davantage d'une réponse politique que d'une solution technique à la criminalité économique. Il dénonce une justice illusoire, estimant que les véritables gestionnaires de la chose publique, souvent auteurs des crimes économiques, restent en grande partie à l'abri des poursuites judiciaires. Il explique les contradictions contenues dans ce projet de loi au micro de Jeff Ngoy.
Lorsque nous avons essayé d'analyser ces projets de loi, nous avons constaté qu'effectivement, il y a beaucoup d'irrégularités, d'obstacles qui peuvent ne pas permettre ces tribunaux à bien fonctionner. Parmi les obstacles déjà, nous relevons que lorsque vous lisez l'article 7 de ces projets de loi, vous allez constater que toutes les personnes bénéficiaires des immunités, des poursuites, des privilèges, des poursuites sont exclues, ne sont pas justiciables devant ces tribunaux dits spéciaux. Ce qui a paraît comme une contradiction. Pourquoi ce tribunal est mis en place? C'est parce qu'on a constaté que les juridictions qui existent aujourd'hui ne sont pas efficaces dans la lutte contre cette forme de criminalité. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'en faire un tribunal spécial. Mais comment voulez-vous aujourd'hui instituer un tribunal et les dépouiller au même moment, n'est-ce pas, de ces justiciables? Parce que lorsqu'on parle du détournement des données publiques, ce sont des personnes qui gèrent la chose publique. Vous avez le membre du gouvernement, le président de la République et consorts.
Actualité internationale.
Somali, au moins 7 soldats ougandais ont été tués le week-end dernier lors des combats avec le Shebab, ces combattants islamiques radicaux. Ces soldats faisaient partie de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, chargée de lutter contre cette organisation liée à Al-Qaïda. Selon un porte-parole de l'armée ougandaise, ils ont péri durant un siège qui a duré 3 jours pour reprendre le contrôle d'une zone occupée par les Shebab. Une opération nommée Tempête silencieuse pour reprendre plus précisément le contrôle d'une localité qualifiée de stratégique dans la région du Bas-Chabel, une localité située à environ 200 km au nord de la capitale Mogadiscio, selon l'armée rwandaise, était utilisée comme base arrière pour des attaques sur la capitale. Toujours selon l'armée ougandaise, à l'issue de cette bataille, la ville a été reprise. Une trentaine des combattants Shebab ont été tués et des armes ont été saisies. Il s'agissait d'une opération conjointe entre l'Union africaine et l'armée somalienne.
L'invité.
Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, tire la sonnette d'alarme face à la détérioration inquiétante du système de santé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon une étude menée entre avril et mai 2025, des milliers de personnes sont privées d'accès aux soins en raison de l'insécurité persistante et des conflits armés. Pour mieux comprendre les conclusions de cette enquête et les enjeux humanitaires qui en découlent, nous recevons Jean-Nicolas Paquet-Rouleau, chef adjoint de la délégation du CICR et responsable des opérations. Il répond aux questions de Sifa Magoro. Suivez.
Monsieur Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Le CICR vient de présenter aujourd'hui à la presse les résultats d'une enquête menée par rapport à la situation humanitaire et sanitaire, notamment au nord et au sud Kivu. Le CICR parle d'un système de santé à bout de souffle. Pourquoi vous dites ça?
Alors, l'étude que nous avons menée entre avril et mai nous a permis de constater qu'aujourd'hui, les centres de santé qui sont dans le sud et le nord Kivu, que ce soit tant du côté gouvernemental que du côté contrôlé par la FCM23, démontrent des chiffres qui sont alarmants. On parle de structures de santé qui ont vu le nombre de consultations diminuer drastiquement. On parle de structures de santé qui nous donnent des chiffres où est-ce que les morts maternelles augmentaient de 4, où est-ce que les problèmes associés avec les troubles psychosociaux des victimes de violences ou des victimes de violences sexuelles ont augmenté de 7, et en même temps d'un système de santé qui ne dispose plus des médicaments de base pour traiter des maladies communes comme le paludisme, comme les diarrhées, qui n'ont même plus l'ibuprofène ou le paracétamol à fournir aux populations qui se rendent chez eux. En outre, ce sont aussi des structures qui, pour la majorité, ont vu au-delà de 5000 personnes, 5000 déplacés trouver refuge chez eux. Ce sont des structures qui ont quasiment toutes reçu des blessés par arme alors qu'elles ont l'habitude de traiter des problèmes de base. C'est des structures qui, pour presque un tiers ou voire la moitié, ont vu une partie de leur personnel fuir. Plusieurs ont été affectés, plusieurs ont dû fermer, ce qui complique énormément aujourd'hui la réponse que ces structures sont capables de fournir à la population qui, elle, est davantage vulnérable parce qu'elle a dû se déplacer, parce que les conflits leur ont empêché de continuer à maintenir des moyens de subsistance qui nous préoccupent énormément aujourd'hui.
Vous alertez également sur la diminution sensible d'approvisionnement des kits post-viol. Nous savons que les violences sexuelles, c'est un problème majeur qui préoccupe les humanitaires. Alors, est-ce qu'il y a déjà absence de kits? Quel plaidoyer faites-vous? À qui vous adressez cet appel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver au pire?
Alors, je commencerai par dire que les violences sexuelles sont non seulement un problème humanitaire majeur qui nous préoccupe, mais c'est aussi une violation du droit international humanitaire très grave. Et ça, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de le mentionner. En deuxième lieu, effectivement, il y a plusieurs centres de santé aujourd'hui qui n'ont plus de kit post-viol, post-exposition, qui doivent référer les victimes à d'autres centres, parfois plus loin, et l'ironie veut que plus ces centres sont éloignés et plus la distance entre ces centres est grande, plus les femmes sont vulnérables à de nouveaux actes de violence sexuelle. Alors, le problème des kits de post-viol est essentiellement une question financière et logistique. D'une part, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les acteurs du développement, de l'humanitaire et leurs bailleurs puissent s'assurer d'un nombre suffisant de kits de post-exposition ou de post-viol pour tous les centres de santé. Et la deuxième, c'est comment les acheminer. Et là, c'est une question de la logistique. Et pour ça, le CICR est disposé, dans l'est de la RDC, s'il le faut, de transporter ce genre de kit là où est-ce que les autres ne s'y rendront pas. Mais je crois que si on arrive collectivement à trouver une solution à l'achat et à la disponibilité des kits post-viol, et ensuite à son acheminement, ces problèmes ne se poseront plus. Mais c'est et par le même biais, on pourra faire la même chose pour les médicaments contre la tuberculose, contre le paludisme et tous ces médicaments de base gratuits qui existaient dans les centres de santé auparavant et qui aujourd'hui sont menacés de ne plus du tout exister pour la population.
Merci beaucoup, monsieur Nicolas.
Merci beaucoup à vous. Okay. Bonne continuation. Merci.
Jean-Nicolas Paquet-Rouleau, chef adjoint de la délégation du CICR et responsable des opérations, a répondu aux questions de Sifa Maguru. Dans cet entretien, il a lancé un cri d'alarme face à la dégradation préoccupante du système de santé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est tout pour ce journal. Mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Présentation assurée par Gisèle Cage. Coordination Richard Junior Kamunga. Supervision Martin Sebujangwe. Pour suivre toute l'actualité en temps réel, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X, ou rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches.